parabole du jour avec le Père Willem.
La filiation. On parle beaucoup de filiation. Au moins ces temps-ci, plusieurs personnes parlaient des questions liées à la filiation. Il y a des espoirs. Il y a des doutes. Sortir de l'enfance, retomber en enfance, ces expressions traditionnelles d'un vœu et d'un regret soulignent le paradoxe de l'appel évangélique à devenir comme des enfants. Qu'est-ce que cette enfance a quitté et a retrouvé? S'agirait-il, comme le demande Nicodème, d'entrer dans le sein de sa mère pour naître à nouveau? L'ensemble des paroles de l'évangile de Jean indique une ligne de réponse à partir du thème de la filiation, notamment dès les débuts sur les fils d'Abraham. Il s'agit bien de se reconnaître fils ou fille, mais de quel père? L'enfant, dans cette perspective, est celui qui, en esprit et en vérité, est proche de son origine, qui la reconnaît. Ce savoir, se reconnaître, fils ou fille, ce fil conducteur peut aider à relier ce qui, dans l'existence d'un sujet humain, fait sens ou fait question. De toujours, cette expérience humaine a été constitutive de l'identité personnelle et sociale, mais toujours elle devait, ainsi que la réponse à travers les âges de la vie, on n'est pas fils ou fille de la même manière de la naissance à l'âge mûr. On ne le reconnaît pas du même regard. Or, depuis l'entrée en scène de nouvelles possibilités d'assistance médicale à la procréation et devant la perspective de maîtrise de cet événement, les interrogations sont nombreuses. On parle de malaise de la procréation et corrélativement de doutes sur la filiation. Grâce au progrès de la biomédecine, ce qui dans la génération humaine relève des corps de mieux en mieux connus et devenus objets d'intervention, voire même de programme. En même temps, ce qui relève d'une parole, d'une affirmation de reconnaissance est mis en évidence dans des enquêtes familiales, voire dans des revendications de paternité et de maternité dans des conditions corporelles nouvelles, notamment hors sexualité. Sans parler d'un hypothétique clonage, quand dès aujourd'hui un enfant peut avoir, suite à des échanges et transferts de gamètes, jusqu'à deux pères et trois mères. Comment sortira-t-il d'un tel embroglio? La plupart du temps, ces débats sont vus du côté des décideurs qui sont en premier lieu les candidats parents ainsi que les responsables du cadre socio-juridique de la vie familiale et de l'exercice des pratiques médicales. Ainsi, en France, le projet parental semble-t-il avoir pris de la loi elle-même une place significative, même si la reconnaissance d'un tel projet veut encadrer et limiter un prétendu droit à l'enfant qui continue de se revendiquer et qui fait problème. Or, précisément, il est plus difficile de se placer du côté de l'enfant, de ses droits éventuels et même de ses désirs. Notre question pourrait alors se formuler ainsi. Les nouvelles possibilités de procréation modifient-elles, et en quoi, la possibilité pour un enfant de se reconnaître fils ou fille? Le thème de l'enfant bien-né est sans doute aussi vieux que l'humanité consciente. L'anthropologie actuelle à la recherche de ce qui fait sens et symbole dans la procréation humaine attire l'attention sur quelques pratiques sociales omniprésentes, même sous des formes très variées. Il s'agit des pratiques qui organisent les relations entre les sexes et les relations entre les générations en vue de les faire sortir d'une violence toujours menaçante et de leur donner, socialement parlant, un sens commun. Elles le font à la fois pour des règles, des rites, et à travers ces règles pour réprimer la violence. Les rites pour annoncer une signification sur les énigmes de l'aventure de la vie, de la naissance à la mort. L'aventure de la vie, c'est une question primordiale. Pour l'enfant, les âges de la vie biologique sont ainsi scandés par des rites de passage à la naissance, adoption, remise à des nourriciers, après l'allaitement, sortie du giron maternel, à l'âge venu, initiation pubertaire, puis entrée en vie matrimoniale, jusqu'au rite de funérailles et de deuil. Le petit homme sera ainsi déclaré successivement nourrisson, enfant, jeune, adulte, et lui-même entendra et intériorisera ces appellations. À chacune de ces étapes, lui sera annoncé quelque chose de son identité et de sa filiation. Le nourrisson reconnaît d'instinct la femme qui le nourrit et qui, dès ses premiers mots articulés, lui apprend à dire « maman ». Accédant ainsi au langage, il s'entend désigner par sa mère et son entourage son propre nom, puis celui de son père. Devenu adolescent, il se prête à l'initiation de ses capacités d'engendrer à son tour, pour devenir bientôt plus complètement semblable à la mère ou au père, auquel il assurera une descendance. De plus, ce dire qu'il entend comporte toujours une injonction, une loi, la loi des fils et des filles à laquelle il doit répondre. C'est une loi universelle, souvent énoncée, comme dans la Bible, par le commandement d'honorer ses parents, ce qui comporte également un objectif de croissance. Tu seras un homme, mon fils. À chaque étape, la loi des fils et des filles se charge d'un contenu spécifique. L'obéissance en matière d'éducation, la prise progressive de responsabilité, puis la disposition à entrer dans la vie adulte et matrimoniale, enfin le soutien parental et le culte des ancêtres, selon les modèles portés par le groupe social. Se reconnaître fils ou fille implique d'être dans ce jeu. Arrivera-t-il ainsi à être enfant bien-né, digne de sa filiation ?